avec Hélène Denis.
Bon mardi, c'est le 2 septembre 2025, retour du long congé, en tout cas pour plusieurs d'entre vous. C'est la vraie rentrée ce matin, ça paraissait sur les routes. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde.
Passez un beau week-end.
Oui.
Oui, faites quelque chose de spécial.
Ben, mon amoureuse s'est couchée et réveillée le samedi matin en se disant « je veux aller cueillir des champignons ».
Ah oui, c'est le temps là, des champignons?
Oui, pour certaines variétés. C'est une amoureuse des chanterelles.
C'est vrai que c'est bon, on n'a jamais fait.
Moi, j'ai jamais fait ça. Elle, venant du Périgord, elle est habituée de pêcher le champignon sauvage.
Elle le connaît bien parce qu'il faut connaître le champignon pour bien le cueillir, pour ne pas mourir.
Fait qu'on s'est trouvé une petite forêt dans le sud de la province, près de...
Vous êtes resté au pays?
Oui. On n'était pas loin de la ligne, par exemple.
Oui.
On en a trouvé une. Un champignon.
OK. L'avez-vous mangé?
Oui, on l'a mangé le soir même.
Et puis?
Ben, je suis toujours ici, donc...
Vous l'avez partagé, un champignon? Est-ce qu'il était gros?
Non, il était très petit.
Eh bien, la cueillette des champignons. La cueillette des pommes, c'est commencé, hein, ça?
Dépendamment des variétés. Oui.
En tout cas, j'en ai mangé des excellentes en fin de semaine. Une bonne pomme, là.
Une lobo, j'imagine.
Oui, c'était une lobo.
Je voyais dans votre visage que ça devait être une lobo.
Oui, vraiment. Ça sent la rentrée, hein. Quand on commence à manger des pommes et qu'on va les cueillir aussi, ça peut être une belle activité pour plusieurs. Alors, aujourd'hui, au menu, on aura une entrevue téléphonique avec Francis Choignard, qui est le chef d'orchestre de l'orchestre Film Harmonique, qui est de retour avec le concert L'Univers symphonique du cinéma. Hommage à John Williams. Alors, ça va nous donner la chance d'écouter un peu de musique signée John Williams, lui qui en a tant fait pour le cinéma américain. On aura aussi la chronique livre en compagnie d'Anne-Marie Aubin, chronique sur la thématique de la rentrée. Anne-Marie va nous présenter deux albums et une BD pour la jeunesse. Également au menu les paractualités. Et la chronique économie avec Michel Poitvin qui sera... On a inversé les chroniques là aujourd'hui pour des raisons personnelles. Michel sera là un petit peu plus tard, mais il sera tout là pour nous parler économie. Et aujourd'hui, c'est la filière batterie qui fait encore parler d'elle. Michel s'y est intéressé. Et on commence cette émission avec une nouveauté d'Alex Nevsky.
Étoiles brillent, laissant le vent jouer à nos chevilles. Oui, allons là où les vagues vacillent, laisse ton cœur s'échouer à mes Antilles.
Alex Nevsky, Hula Hoops.
À la une de la presse plus de ce 2 septembre 2025, 100 millions en frais d'avocat. C'est un dossier qu'on peut lire dans la presse d'aujourd'hui. C'est Léa Carrier qui signe ces textes. Pas moins de 12 millions ont été engloutis en frais d'avocat, une hausse de 80 % sur une décennie. Un père poursuit un centre de service scolaire pour avoir failli à sa responsabilité de protéger sa fille qui a débarqué au mauvais arrêt d'autobus. Une mère en poursuit un autre parce qu'elle juge que le protocole d'intervention imposé à son fils violent est discriminatoire. Depuis 10 ans, le réseau scolaire a dépensé près de 100 millions de dollars en frais d'avocat dans toutes sortes de litiges comme ceux-ci, selon une compilation effectuée par la presse. Alors, même les petits centres de services scolaires peuvent y consacrer des dizaines de milliers de dollars dans leur budget annuel. La presse a demandé quels honoraires avaient été versés à des cabinets d'avocats à l'ensemble des 72 centres de services scolaires, commissions scolaires anglophones et commissions scolaires à statut particulier de la province, en vertu de la loi sur l'accès à l'information. 57 organismes nous ont répondu. Dans le réseau scolaire, les besoins juridiques n'ont jamais été aussi grands. Les dossiers de grief se sont complexifiés. Les parents sont davantage portés à s'adresser aux tribunaux. Les lois et les règlements qui se sont multipliés sous le gouvernement caquiste entraînent de plus en plus de services conseils auprès des cabinets d'avocats. Résultat, le réseau scolaire a dépensé un record de près de 12 millions de dollars en frais d'avocat en 2023-2024. On parle d'une augmentation de 80 % par rapport à 2013-2014. Depuis 2018, le tarif horaire que peuvent réclamer les avocats aux organismes publics est par ailleurs gelé par Québec. Alors, des causes en tout genre, des élèves de secondaire déplacés dans une école primaire. En mai dernier, 3 maires ont déposé une demande d'injonction interlocutoire visant le Centre de services scolaires, le CSS, des Patriotes. Le recours visait à empêcher le déplacement temporaire de 400 élèves de l'école secondaire Chambly dans une école primaire avoisinante pendant l'année 2025-2026 en raison de travaux majeurs d'agrandissement dans la première. Les plaignantes soulevaient des inquiétudes par rapport à la cohabitation de leurs enfants avec des élèves de niveau primaire, affirmant notamment qu'ils y seraient isolés de leurs pères plus âgés et privés d'un cadre structurant, ce qui pourrait nuire à leur développement. Autre exemple, pendant des années, un élève du CSS des Premières Seigneuries a terrorisé ses petits camarades de classe régulièrement. Il les poussait au sol, leur donnait des coups de poing et leur lançait des insultes racistes. Après plusieurs événements violents, la direction de l'école a élaboré un protocole d'intervention pour accompagner le comportement de l'enfant. Mais selon sa mère, la mesure était discriminatoire et stigmatisait son garçon. Alors, d'autres causes récentes où les fonds publics ont servi à payer leur défense. Vente de chocolat et de cartes à gratter. En 2022, la Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective intentée par un groupe de parents contre le CSS des Saint-Mars. Les plaignants réclament le remboursement de sommes amassées dans le cadre d'activités de sociofinancement organisées par l'école pour financer des voyages scolaires annulés en raison de la pandémie de COVID-19. Dans leur demande introductive d'instance, les parents affirment que l'argent amassé par leur enfant par la vente de chocolat ou de cartes à gratter, quelques centaines de dollars par élève, devrait leur revenir. L'argent a plutôt servi à financer d'autres services éducatifs. L'affaire est toujours devant les tribunaux. Autre titre à la une de la presse plus, dévastation, séisme en Afghanistan, des morts par centaines dans des zones reculées et des secours insuffisants. Internationaux des États-Unis, au suivant, point d'exclamation, Félix Auger-Aliassime, file encore, Léla Fernandez, limite en double. Et on en parle de ces champions. En tout cas, on peut les appeler des champions parce qu'ils sont quand même rendus loin. Ça se poursuit cette semaine. On les voit, nos stars d'ici brillent. Le journal à l'US Open. On voit Félix Auger-Aliassime victorieux ainsi que Léla Fernandez. Et puis, ce qui occupe la majeure partie de la une du Journal de Montréal d'aujourd'hui. C'est le titre en gros caractère, les factures explosent, 1,2 milliard en dépassement pour des chantiers d'hôpitaux. Sur 14 chantiers hospitaliers en cours de réalisation, plus de la moitié enregistre des dépassements de coûts. Ces dépenses supplémentaires représentent plus que la somme totale liée au fiasco Saclic et trois fois le budget total du centre Vidéotron. Le coût global pour ces projets a grimpé de près de 20 % pour atteindre la somme astronomique de 7,9 milliards. Pressé de questions par le journal, le CHU de Québec a dû annoncer la semaine dernière une hausse des dépenses de 418 millions pour le méga chantier de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. À l'hôpital de la Chine, à Montréal, la facture du projet d'agrandissement pour des soins ambulatoires et critiques a bondi, passant de 95 millions à 223 millions depuis 2018, selon les données du Conseil du Trésor. L'inflation exerce une forte pression, explique la Société québécoise des infrastructures, qui est derrière plusieurs de ces chantiers. Également, plusieurs projets ont connu des bonifications au projet initial, comme des modifications liées aux mesures sanitaires à la suite de la pandémie. Pour le professeur agréé au département de management de l'Université Laval, Pierre-André Hudon, l'évaluation objective de ces contrats et des dépenses supplémentaires est difficile à faire. Il faut faire attention, très attention, à la notion de dépassement de coûts, souligne-t-il d'emblée. C'est par rapport à quoi? Est-ce qu'on s'est fait avoir? Est-ce que c'est parce qu'on a mal estimé et que ça, c'est ça le prix du marché? Si je vais m'acheter une Toyota Camry avec un budget de 15 000 $ et que finalement ça me coûte 50 000 $, ce n'est pas un dépassement de coûts. C'est une mauvaise estimation. Et puis à la une du Devoir d'aujourd'hui, séisme, l'aide humanitaire au chevet de l'Afghanistan. Les services d'aide humanitaire s'activent et se rendent en Afghanistan après qu'un séisme de magnitude 6 a frappé les provinces de Nangarhar et de Kunar dans la nuit de dimanche à lundi, faisant plus de 800 morts et 2700 blessés. Le déploiement de l'aide dépendra toutefois de la coopération du gouvernement des talibans, selon un expert interrogé par Le Devoir. Au moment où ces lignes étaient écrites, les équipes de l'UNICEF étaient déployées sur le terrain dans les zones touchées par le séisme. Et politique municipale, en titre à la une du Devoir d'aujourd'hui, Bruno Marchand garde le cap en entrevue au Devoir. Le maire de Québec se félicite d'avoir su éviter les choix faciles au cours de son premier mandat, une rencontre avec Sébastien Tanguay. Une des compositions fantastiques de John Williams. Vous avez reconnu évidemment le thème du film Jaws. Et après avoir conquis le public l'an dernier, l'orchestre Film Harmonique sera de retour à l'automne 2025, cet automne, avec l'univers symphonique du cinéma hommage à John Williams pour une nouvelle série de représentations dirigée par le chef d'orchestre Francis Choignard, concert salué par la critique qui sera en tournée dans 6 villes canadiennes, Montréal, Québec, Saint-Jérôme, Sherbrooke, Gatineau et Toronto. Bonjour, Francis Choignard.
Bon matin.
Merci d'être avec nous, Francis. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette série de concerts en hommage à John Williams?
Donc, on fait vraiment un survol de sa carrière. Il a écrit pour tellement de films, ce serait impossible de faire tout son catalogue.
Avez-vous le décompte?
De son catalogue?
Oui.
Ah, c'est plus qu'une centaine, c'est certain.
Ah oui, ça c'est sûr.
Et il écrit encore.
Oui, il a 93 ans.
C'est ça, il a dit si jamais quelqu'un me demande d'écrire pour un autre film, ben je vais le faire. Donc,
bon, il est toujours disponible. Vraiment.
C'est ça. Donc, on fait Jazz, c'est certain. Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, E.T., Star Wars. Et on fait même un petit clin d'œil à la pièce qu'il a écrite pour les Olympiques. Qui s'appelle Call of the Champions, qui est quand tous les Olympiens ben, ils font leur première entrée. Donc, c'est quand même un grand concert avec 80 musiciens sur scène. Pour la plupart de la tournée, on a aussi un chœur d'à peu près 100 choristes.
Wow.
Qui interprètent les grands pièces de chœur qu'on connaît, particulièrement de Star Wars, le Battle of the Heroes du troisième film et Duel of the Fates du premier film.
Et en tant que chef d'orchestre, est-ce qu'il y a un niveau de difficulté supplémentaire à devoir guider 80 musiciens en plus de 100 choristes?
Le nombre de musiciens ne change pas autant, mais on peut dire que la musique de John Williams est extrêmement virtuose. Elle est très difficile à exécuter pour l'orchestre.
Ah oui?
Pour tous les instruments, John Williams, il n'oublie pas un instrument dans l'orchestre. Et même dans l'extrait de Jazz, un des instruments principaux qui a le solo, c'est le tuba, qu'on n'entend pas très souvent dans l'orchestre.
Non,
parce que c'est très
rare.
Souvent enterré par tout le reste de l'orchestre, mais c'est un solo de tuba qu'on entend. Donc, tous les instruments de l'orchestre ont vraiment leur moment dans un concert comme ça.
Et comment on appelle ça, un joueur de tuba?
Un tubiste.
Merci d'améliorer ma culture. Alors, John Williams a composé plusieurs musiques marquantes au cinéma. Et est-ce que ça a été difficile de choisir les œuvres à inclure dans votre programme?
Ah oui, c'est certain. Il y en a presque trop, mais on est allé avec les coups de cœur. En même temps, on voulait aussi essayer de toucher un peu à tout. Mais Harry Potter et Star Wars, c'est certain, ça c'est un des ses plus grands succès. Donc ça, il figure quand même une place très importante dans le concert. Mais une des belles choses avec la musique de John Williams, c'est que ça a touché plein de générations.
Mm-hmm.
Tous les films, les films des années 80, mais aussi les nouveaux films des 10 dernières années. Donc ça touche vraiment tout le public, les jeunes, les plus vieux, tout le monde. Donc, il y a quelque chose, il y a de quoi apprécier pour la famille, disons.
Et Francis Choignard, quelle est la composition qui vous fait le plus plaisir à diriger ou votre coup de cœur dans la musique de John Williams, là?
Il y en a plusieurs. Il y en a deux pour moi qui sont tripantes. Un, c'est Duel of the Fates, juste tellement épique avec le cœur.
Oui.
Et aussi la thème de la princesse Leia, qui est tellement émouvante. J'adore diriger celui-là.
Est-ce que vous êtes un amateur de cinéma?
Oui.
Oui?
Oui.
Vous êtes un cinéphile, en plus d'être un amoureux de la musique.
En plus, oui.
Ouais.
les deux vont très bien. Et c'est ça, la beauté avec John Williams. Lui, il écrit pas juste la musique atmosphérique. C'est vraiment des pièces complètes qu'on entend dans les films. Il développe ses thèmes. L'orchestration est très grande.
Mm-hmm.
L'ampleur de son écriture... donne vraiment une autre profondeur à l'image qu'on voit. Le développement du personnage fait autant sur l'écran que dans la musique qu'on entend.
Alors, vous êtes un vrai fan de John Williams, là. C'est un compositeur que vous aimez particulièrement?
Oui, c'est certain. Ça serait mon top, disons.
Ah oui, votre top. Est-ce qu'il y a des différences marquantes entre une musique qui a été composée pour le cinéma et une musique qui n'a pas été composée pour un film?
Mais marquant, c'est évidemment quand on écrit pour un film, très souvent c'est très rare en fait d'avoir des extraits qui sont plus longs que 2, 3, 4 minutes. Et même dans l'écriture de John Williams, on dans un film comme Star Wars, le plus long qu'on a comme segment dans le film, c'est 8 minutes de musique. Et donc, très souvent, c'est des courts extraits. On essaie d'accompagner une image et faire développer un thème. Donc, quand c'est juste 30 secondes, une minute, deux minutes, c'est pas très long. Versus une musique de concert, c'est comme John Williams a écrit un concerto de tuba, un concerto de piano, c'est des pièces de 30 minutes qu'on développe un peu plus long. Donc, c'est un peu différent, mais en même temps, je crois que John Williams lui-même est un peu une exception parce que il a tellement fait un effort pour que sa musique soit quelque chose par elle-même, que soit c'est quelque chose qui s'écoute très facilement en concert.
Et lui-même dirige, ou je ne sais pas s'il le fait encore, mais il dirige des concerts avec sa musique.
Oui, je crois que c'est 10 ans qu'il a dirigé au Boston Pops.
L'avez-vous vu?
Partout, non.
Non.
Il est venu, je crois, il y a 2 ans, mais je l'ai manqué. J'avais un autre concert en même temps.
Ah, mais, conflit d'horaire.
Espérons qu'il revienne à Tanglewood, parce que c'est pas si loin, un petit 5 heures de route, et on aurait pu voir le compositeur lui-même diriger ses œuvres.
Ah oui.
Mais c'est ça.
On vous le souhaite de faire 5 heures de route, pas de faire 5 heures de route, mais de voir et d'entendre John Williams à l'œuvre. Votre parcours à vous, Francis Choinière, est déjà pas mal impressionnant, même si vous n'avez absolument pas l'âge de John Williams, là, qui a eu 93 ans, je pense que c'est en février dernier. Comment vous voyez l'évolution de l'orchestre film harmonique dans les années qui viennent, là? Avez-vous des projets qui vous enthousiasment en particulier?
C'est certain. Ben, on fait déjà beaucoup de musique de film. C'est ça notre mission. Mm-hmm. Autant les ciné-concerts où on projette le film au complet, on interprète la trame sonore en direct, que des concerts hommage à des compositeurs spécifiques. Mais dans les années à venir, on veut aussi miser beaucoup plus sur des collaborations avec des artistes. On en fait plusieurs, comme déjà avec François Dampierre, Patrick Watson, mais un peu dans cette veine-là de mettre en valeur aussi plus d'artistes québécois.
Alors là, vous partez en tournée. À partir du 11 septembre, vous serez à Montréal. Dites-nous dans quelle salle vous allez jouer, là, parce qu'on a les villes, mais on n'a pas les salles. Montréal...
Okay. OK. Montréal, on commence à la Maison symphonique.
Oui.
À 4 représentations du 11 au 13. Et après, le 14, on part au Grand Théâtre à Québec. Le 20, on ira à Saint-Jérôme, la salle Gilles Vigneault. Le 26, on part à Toronto pour la salle Roy Thompson Hall. Et on revient après aussi le 27 au Théâtre du Lac-Lémy à Gatineau. Et on finit la tournée à Sherbrooke le 10 octobre dans la salle Morris O'Brady.
Est-ce que ce sont des salles que vous connaissez bien?
Oui. On a déjà fait toutes ces salles. L'orchestre le connaît très bien. En même temps, c'est la première fois qu'on apporte autant de musiciens pour une si grande tournée. C'est quand même plus de 10 représentations à travers le Québec, mais avec 80 musiciens. C'est beaucoup de gestion.
Oui, j'imagine. Bien, bonne tournée, puis bon succès partout où vous passez. C'est très bien commencé. Là, en 2024, vous avez triomphé avec ce spectacle-là, l'univers symphonique du cinéma, hommage à John Williams. On va se laisser avec le thème de Star Wars. Est-ce que c'est un des défis de votre concert, ce thème?
C'est toujours Star Wars, c'est toujours un défi pour les cuivres. Ça leur demande beaucoup d'endurance pour un spectacle comme ça. Mais je crois que c'est aussi un petit coup de cœur. Il adore cette musique aussi.
Alors, Francis Choinière, merci pour cette entrevue. Je rappelle que vous êtes le chef d'orchestre de l'Orchestre Film Harmonique et vous présentez l'univers symphonique du cinéma, hommage à John Williams, à compter du 11 septembre. Merci.
Merci beaucoup.
la musique grandiose de John Williams. Merci d'écouter au quotidien. On est ensemble jusqu'à 11h. À venir, une chanson de Claude Pelgag et la chronique livre avec Anne-Mère Aubin plus tôt aujourd'hui. Chronique sur la thématique de la rentrée avec deux albums et une BD.
Vous écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Je sais pas si tu voles ou bien si tu tombes, si t'attends juste que la neige fonde.
Le goût des mangues, une chanson de Claude Pelgag.
C'est la chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Trois titres aujourd'hui pour la rentrée, des titres pour la jeunesse. Alors, vous commencez avec Jules et Virgule, deux têtes de mule.
Oui, un album de André Poulain et Juliette Miron, illustré par Juliette Miron chez Dominique et compagnie. Ça vient de paraître la semaine dernière, je crois. Un album de 32 pages que l'éditeur propose pour les 3-6 ans, mais j'irais plus vers 5-8 ans, parce qu'en fait, c'est sur l'apprentissage de la lecture. Et puis, bon, ben André Poulain a écrit plus de 60 albums, livres, romans pour la jeunesse, et elle aborde souvent des thématiques en lien avec l'actualité ou quelque chose qui touche les enfants, souvent avec humour. Et puis, dans ce cas-ci, ben, c'est avec la zoothérapie qu'elle propose d'aider un enfant qui a des difficultés en lecture. Alors, à la maison, il y a un garçon qui s'appelle Jules, et c'est sa sœur qui nous raconte l'histoire de Jules qui a un problème de lecture. Puis lui, ben, il est tête de mule, comme l'autre héros qu'on va connaître, qui est le petit chien. Donc, Jules, à l'école, en première année, il y a de la difficulté, en deuxième année aussi, puis en troisième, il dit « moi, je ne l'ai plus ». Et je cite, « hier, son enseignante lui a demandé de lire devant la classe. Mon frère a bafouillé et bégayé. Les élèves ont ri. Jules a lancé son livre. Sa grève de la lecture venait de commencer. » Et là, de jour en jour, il se refuse, comme une tête de mule, à ouvrir, à lire quoi que ce soit. Il est têtu. Sa sœur est bénévole dans le refuge où il y a des animaux abandonnés. Puis après l'école, à chaque soir, ils y vont. Puis à un moment donné, le responsable là-bas, qui s'appelle Marco, dit « quand on lit devant le chien, ça le calme. » Parce que sinon, il hurle tout le temps. Puis le petit garçon, je lui demande pourquoi il hurle. Il dit « parce qu'il a été abandonné. » Alors, il va lui donner un livre pour lui proposer, mais il va résister pendant des jours et des jours et des jours. Puis il va finir par dire quelques mots et lire devant le chien, avec beaucoup de difficultés. Parce qu'il est bègue, et puis, bon, ben il hésite, il fait peut-être de la dyslexie, ça a l'air très souffrant de lire, et il y a des enfants qui vivent ça, donc je me suis dit que cet album-là pouvait peut-être calmer des angoisses. c'est sûr qu'il ne suffit pas d'avoir un chien pour régler tous les problèmes, mais là, dans cette histoire-là, comme dans... c'est le chien qui va aider l'enfant. Il faut croire qu'il se passe quelque chose avec l'animal parce que lui ne le juge pas, ne rit pas de lui et il est patient. Il attend qu'il finisse par lire et à la fin, il va devenir très bon et à l'école, il va être capable de lire sans bégayer, sans difficulté. Et donc, on peut dire que ce chien va l'avoir aidé parce qu'il est aussi têtu que lui à relever ce défi qui est l'apprentissage de la lecture.
Alors, j'avais c'est un livre qui donne de l'espoir, une histoire qui donne de l'espoir.
Une histoire semblable de François Gravel qui s'appelait Guillaume, où l'enfant est bègue et grâce à un chien va s'en sortir. Puis aussi un autre album chez Scholastic où un enfant va à la bibliothèque et a le droit d'amener son chien et ne lit que pour son chien. Il y a quelque chose là-dedans dans la zoothérapie qui peut aider et qui, en tout cas, va faire peut-être, effectivement, donner un peu d'espoir aux parents qui ont ce problème-là à surmonter avec des enfants.
OK. D'après vous, les 3-4 ans, c'est trop jeune pour eux, là, même si
ben, on... Oui, parce qu'ils sont pas conscients encore. À 3 ans, ils commencent l'apprentissage de la lecture. Fait que je pense que c'est plus quand, je dirais, 5 ans, où là, vraiment, on essaie de lire avec l'enfant puis à la maternelle puis à la première année. Mm-hmm. Si on voit des problèmes, ça peut être très utile.
OK. Parce que la maison d'édition... dit que oui, c'est destiné pour les 3 à 6 ans. Mais là, vous l'avez lu et c'est votre point de vue.
Alors, c'est parce que le texte est très, très, très bref. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis 3 ans.
Ah, peut-être. Julie Virgule, Deux têtes de mule par André E. Poulain, illustré par Juliette Miron. Et on passe à Monsieur S. Qui est Monsieur S?
Ah, ça, c'est le grand mystère de l'album de Monica Arnaldo chez Scolastic. C'est un album de 40 pages pour 4 à 8 ans. C'est tout à fait justifié parce qu'on dirait que c'est comme une classe de maternelle qui arrive au premier jour à l'école et dans la classe, il n'y a pas de professeur. Il y a un pupitre avec un sandwich, un café qui fume. Il y a des feuilles, des crayons. Puis au tableau, c'est écrit « Monsieur S ». Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Eux autres, les enfants, ils disent « Oh, ça doit être Monsieur Sandwich parce qu'il y a un sandwich sur la table ». Mais pendant que toutes ces hypothèses se font auprès des enfants, par la fenêtre de la classe, on peut voir un récit parallèle où là, finalement, il s'est produit un gros accident. Ça, on le sait à la première page parce qu'on voit le professeur qui entre, mais c'est juste une illustration, là, qui pose son café sur le pupitre et qui voit par la fenêtre l'accident. Et là, il va aller dehors et là, il va arriver les pompiers, les policiers, toutes sortes de choses que les enfants ne voient pas, mais que le lecteur peut voir en parallèle avec tout ce qu'ils font, eux autres, ils décident de faire un abécédaire, de dessiner, de faire de la musique, jusqu'à temps que, bon, à la fin, le problème est résolu. Le directeur.
Anne-Marie, je m'excuse parce que le son est étouffé, on vous perd parfois.
Est-ce que c'est mieux maintenant?
Oui.
Bon, alors, donc, finalement, c'est le directeur à la fin qui va intervenir, qui va entrer dans la classe où c'est un peu le chaos, mais on ne sait toujours pas ce que ça veut dire, le monsieur S. C'est qui le professeur? Il reste beaucoup de non-dits dans cet album plein d'humour que j'ai adoré parce que l'enfant va imaginer comme les enfants de la classe, mais aussi il va lire le récit extérieur qui est très bien exprimé. Alors, c'est vraiment amusant, puis les adultes vont avoir autant de plaisir que les enfants à lire cette histoire-là. Qui, enfin, ne veut pas du tout régler de problème. Là, souvent, dans les livres pour enfants, on veut parler de tout ce qui, les difficultés qu'ils vivent. Mais là, ici, c'est juste sur le plaisir de l'imaginaire que fait une classe maternelle, par exemple, où il n'y a pas de professeur. Alors, c'est très amusant.
Et on est un peu aussi dans le suspense, parce qu'on se pose des questions sur M. S. Ouais.
Oui, c'est vrai, c'est l'énigme, en fait. Oui, c'est ça.
Et donc, ça s'appelle Monsieur S par Monica Arnaldo aux éditions Scolastique. Peut-être S pour Scolastique?
Oui, tu sais, hein?
Et vous terminez en nous parlant d'une BD cette fois-ci, Nat et rien d'autre.
Oui, de Maria Striven. C'est chez Scolastique. Ça a paru celui-là en 2023, mais c'est toute une série. Il y en a plusieurs avec l'héroïne qui s'appelle Nathalie, en fait. Et c'est un recueil de illustré en couleur de 240 pages qu'on propose aux 8-12 ans. Effectivement, c'est le bon groupe d'âge. Maria Striven a fait beaucoup de BD. Elle illustre et puis elle vit à Montréal. C'est ce qui m'a surpris aussi. Je ne connaissais pas. Et puis, non, c'est pas elle, c'est l'autre. Je fais erreur. Donc, elle a fait beaucoup d'illustrations pour des revues. Et puis, elle aborde dans ça la difficulté de la rentrée scolaire quand on est un préado, qu'on a des amis et que rien ne va plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début de l'année scolaire, Nathalie, qu'on appelle Nat, ben, elle est, comme toutes les élèves de l'école, invitée à s'inscrire à un club d'activités parascolaires. Alors, il y a du sport, il y a des marionnettes, il y a différentes choses, mais elle, on dirait qu'il n'y a rien qui l'intéresse. Alors, elle se sent vraiment seule, elle se sent isolée, puis différente, puis elle a l'impression d'être incomprise, parce que pendant l'été, elle a deux bonnes amies, dont une qui s'appelle Lily, où ils ont été ensemble dans un camp d'été. Et là, au premier jour de la rentrée, elle la croise et son amie lui dit, je cite, « Écoute, Nat, je sais qu'on était plutôt amis au camp, mais maintenant qu'on est revenu à l'école, c'est différent. Sans vouloir t'offenser, c'est mauvais pour mon image. Autrement dit, tiens-toi pas trop proche de moi. » Puis elle, on voit là qu'elle est très superficielle, ses cheveux, son habillement. Et l'autre, Nathalie, pas du tout comme ça. Elle est tellement dans l'une qu'elle est partie à l'école avec ses pantoufles en forme de lapin. Alors, c'est tout à fait opposé. Alors là, ben, elle est un peu surprise de ça. Elle raconte ça à son amie Zoé, qui dit, ah, ça se peut. Écoute, c'est pas grave. Là, moi, je suis encore ton amie. Puis là, Zoé va s'inscrire au club de volleyball comme l'autre, Lily aussi. Fait qu'ils vont toujours être ensemble, mais là, elle va se sentir trahie, toute seule, puis elle n'a pas aucun intérêt pour les autres groupes, elle ne sait pas quoi faire. Et une professeure dans l'école qui a du flair, qui voit bien que cette jeune fille, elle est différente, elle lui dit, bon, ben, je te jumelle à un nouveau qui vient d'arriver, qui ne connaît pas l'école, et tu serais gentille de lui faire visiter l'école. Elle n'a pas du tout envie de faire ça. Elle est encore dans son chagrin, là. Alors, elle fait ça vite. Elle dit, regarde ici, il y a la cafétéria, puis là, il y a ça, puis c'est ça. Bon, elle règle ça en une minute.
Achale-moi
là.
Pas. Hop, on vous repère.
Voilà. Et à un moment donné, ils vont se recroiser, puis ensemble, ils vont créer un club qui n'existe pas, qui est le club BD. Et ça sort...
Alors, Anne-Marie, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Est-ce que vous nous entendez?
Oui.
OK, parce que là, on vous a perdu sérieusement pendant un petit bout de temps.
C'est triste. Alors, je vais terminer rapidement en disant que c'est une très bonne BD, très intéressante, qui parle pas juste d'une histoire d'adolescente, mais de la BD en tant que telle, comment on dessine, comment on illustre, et qui donne des pistes à tous ceux qui font de l'angoisse. Elle appelle ça les gremlins du doute. Des petites voix dans ta tête qui te dit non, fais pas ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon. Alors, c'est facile à lire, c'est très niveau populaire, mais en même temps, ça va plaire à toutes les filles, surtout les filles, et aux amitiés difficiles de l'adolescence où des fois, il y en a qui virent à droite, virent à gauche, puis tu sais pas trop si elles te trahissent ou si sont encore tes amies. Bref, j'ai adoré cette BD-là, Des jeunes de fin primaire vont adorer aussi, je crois.
Et ça s'inscrit dans une série?
Oui, il y en a plusieurs. Oui, il y a toujours avec la même héroïne. Et ce qui est intéressant, c'est que le dernier chapitre de ce livre-là, c'est qu'elle, dans son club de BD, va créer une BD qui va s'appeler « Les aventures de Super Nat », c'est-elle. Et donc, elle va... les dernières pages, c'est les planches de la BD qu'elle réalise dans son club de BD. Donc, ça peut donner le goût aussi à des jeunes de se mettre à dessiner. Si on n'a pas envie de jouer au volleyball, on peut faire autre chose. Fait que, bref, j'ai trouvé ça très intéressant pour des enfants différents qui ont du mal parfois à s'intégrer dans les premières semaines de classe, surtout si c'est tous des nouveaux qui ne connaissent pas, qui ont changé d'école. Ben, ça peut être intéressant.
Nat et rien d'autre. Il y a aussi Nat perd la carte, Nat absolument, Nat d'abord, ouais. Nat tout court. Et c'est par la BDiste Maria Scriven qui vit au Connecticut, on a vérifié.
C'est ça.
Ben merci, ouais. Merci. J'allais vous dire Nathalie. Anne-Marie. Puis,
à la prochaine.
Désolée pour les petits problèmes techniques, là, mais ça arrive dans les meilleures familles, comme on dit. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci beaucoup, au revoir. Put
trust in an unknown. Fell headlong into the arms of the force that stirred me. Unsteady to steady heart, and took me to a place I've never been. A place I've never been since. Stopped hoping it's enough. Things from day one, and then things can't go too wrong. Just let them walk all over you, laugh through the punches and the pain. Let the lifeblood drain away. Right, you're
enregistré durant une pratique, imaginez-vous donc. C'était David Gilmour et sa fille Romany Gilmour pour la pièce Between Two Points.
Et ça donne un résultat extraordinaire. Une bombe à retirer de la tête. C'est dans la presse d'aujourd'hui, section Actualité en santé. Audrey Hardy a subi une opération de plus de 20 heures pour se débarrasser d'une malformation au cerveau. C'est Marie-Ève Cousineau qui signe le texte. J'avais une bombe dans la tête et elle a explosé. En avril 2024, l'audiologiste Audrey Hardy donne une formation à l'hôpital de Rouyn-Noranda lorsque le détonateur se déclenche. Sa malformation au cerveau provoque un accident vasculaire cérébral, un AVC, hémorragique, un raz-de-marée de sang. Les infirmières à qui elle donne la formation la prennent en charge et la dirigent aux urgences. Stabilisée, elle est transportée en avion au Neuro, l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, qui fait partie du Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM. « Je suis vraiment chanceuse qu'il m'ait attrapée aussi vite », dit la femme de 44 ans. Audrey Hardy ne garde aucune séquelle motrice de son AVC, mais sa faculté langagière est atteinte. Grâce à la réadaptation, elle retrouve son débit de parole normal et son vocabulaire. Mais la mère de trois adolescents ne pense plus qu'à une chose, se débarrasser de cette malformation artério-veineuse au cerveau, une épée de Damoclès qui plane au-dessus, plutôt en dedans de sa tête. Jusqu'à l'âge de 37 ans, elle ignorait tout de cette anomalie dont elle a appris l'existence à la suite d'une première crise d'épilepsie. « Il y a des malformations qui ne vont jamais saigner », explique sa neurochirurgienne Marie-Christine Brunet. « Évidemment, quand ça saigne une première fois, on est plus à risque de ressaigner. Ce risque atteint jusqu'à 18 % durant l'année qui suit », précise-t-elle. Audrey Hardy souhaite une intervention chirurgicale pour retirer la malformation. L'opération délicate et complexe est effectuée en octobre 2024, un véritable marathon, selon la docteure Brunet. La veille de l'opération, Audrey Hardy doit subir une embolisation endovasculaire afin de bloquer les vaisseaux qui nourrissent la malformation. L'intervention dure environ 4 heures, puis vient la longue opération. Cela a duré 22 ou 23 heures, se rappelle la docteure Brunet. Son collègue neurochirurgien, le docteur David Stewart Sinclair, et elle se relaient au microscope pour enlever la malformation de 6 cm située dans le lobe temporal gauche, près de la zone du langage, à l'aide de micro-instruments. Les médecins demeurent éveillés tout au long de l'opération. Dans une chirurgie aussi complexe que cela, tu ne peux pas aller te coucher, explique la docteure Brunet. Il faut que tu comprennes où est-ce que cela en est rendu. L'opération s'avère une réussite. Ils ont passé 23 heures dans ma tête à enlever la malformation et j'ai réussi à parler dès le lendemain, dit Audrey Hardy, qui a été hospitalisée une semaine. Je suis épatée de leur expertise, ça me fascine. Audrey Hardy a dû faire de la réadaptation à la suite de son opération. Quelques mois après, ses facultés étaient au même niveau qu'avant l'intervention. Sa cicatrice, longue de 15 cm, elle, est savamment cachée par ses cheveux blonds. Mais la malformation a laissé des traces. Audrey Hardy fréquente chaque mois un groupe de soutien du CUSUM pour échanger avec des patients qui ont séjourné aux soins intensifs, aux neuro ou d'autres hôpitaux de l'établissement. On a tous frôlé la mort d'une certaine façon et on a tous été hospitalisés et éprouvés par ça, dit-elle. Ça fait du bien d'entendre d'autres histoires. Ça m'apaise. Ça relativise. L'audiologiste pédiatrique qui travaille elle-même au CUSUM a pour objectif de retourner au boulot. Elle ne fait plus de sieste durant la journée, contrairement à il y a quelques mois. Sa mémoire de travail n'est cependant pas encore tout à fait à point, selon elle. « J'ai encore tous les items dans ma grande bibliothèque », illustre-t-elle. Elle trouve facilement les livres sur les tablettes, mais elle peine davantage à repérer ceux qui n'ont pas encore été classés. Elle travaille à mettre en place des stratégies pour y arriver. « À mes yeux, je vais être encore capable de faire ma job comme avant. Je roulais à 150 km à l'heure. Je vais peut-être rouler à 100 ou 110. » C'est dans la presse d'aujourd'hui, une bombe à retirer de la tête. Et on parle également de l'embolisation, l'opération. En fait, en quoi consiste une embolisation endovasculaire? un micro-cathéter est introduit dans l'artère fémorale au niveau de l'aine, puis dirigé jusqu'au cerveau. Un liquide qu'on surnomme de la colle est injecté afin de boucher les vaisseaux qui nourrissent la malformation. Si on réduit le flot de sang dans la malformation, on ne peut plus la mobiliser. On ne peut plus vraiment faire le tour pour la retirer sans que ça saigne et que ça rende la chirurgie difficile, dit la neurochirurgienne Marie-Christine Brunet. Après plusieurs de ses ministres au cours des deux dernières semaines, c'est maintenant au tour de François Legault de témoigner à la commission Galant. Alors, c'est en train de se faire et puis il y a plusieurs personnes qui suivent ça en direct. Et une des citations de M. Legault, pas normal que la VG, la vérificatrice générale, nous informe du dépassement. On parle ici du dépassement de coûts. On vous tiendra au courant au fur et à mesure qu'on aura plus d'informations à ce sujet. C'est le guitariste Renaud Aubry.
René Aubry.
OK, ouais. Merci. Et dans un petit moment, on va écouter BB Club. Il y a la chronique économique qui s'en vient aussi.
Quotidien avec Hélène Denis.
Tu m'attends
Bleuet de BB Club.
Une belle rencontre s'est tenue à Saint-Placide de Charlevoix. C'est un texte de Michel-Paul Côté qui a été publié sur le charlevoisien.com il y a quelques jours. Le CIUS de la capitale nationale y opère un centre d'accueil et d'activité pour résidents en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme. Madame Nadia Tremblay gère cet établissement qui compte près de 25 résidents permanents et un personnel de plus de 100 personnes. Un atelier pour travailler le bois est disponible aux résidents sous la supervision de personnes compétentes et enthousiastes. Une série de hasards a permis à la CHEC, qui est la Société d'horticulture, d'ornithologie et d'écologie de Charlevoix, d'établir une belle collaboration entre les deux organisations. Le CHEC cherchait un organisme local pouvant produire des nichoirs à merles bleus pour les municipalités, les citoyens et les aînés en CHSLD des 14 municipalités de Charlevoix. L'intérêt fut immédiat et la collaboration au-delà de toute attente. Les animateurs ont fait preuve d'un souci d'excellence pour la fabrication qui est renversante. Des gabarits de coupe et de perçage furent créés. Des postes de travail confortables furent mis sur pied. Des améliorations au concept même des nichoirs furent utilisées. La qualité des nichoirs relève de la haute précision. Notre députée Karianne Bourassa, rencontrée lors d'un événement à la Malbaie, s'est montrée intéressée par l'initiative. Un lien personnel avec le centre de Saint-Placide l'a incité à demander si une visite du centre et des résidents à l'œuvre était possible. Cette rencontre s'est déroulée à la mi-juillet. Au-delà des nichoirs pour hirondelles bicolores et merles bleus, nous préparons avec le centre de Saint-Placide la construction de dortoirs d'hiver pour les mésanges à tête noire. Il s'agit de nichoirs modifiés qui permettent d'abriter de 8 à 10 mésanges durant les nuits de l'hiver, les nuits souvent froides. Alors, de l'hiver charlevoisien, il va sans dire. Cela sera fort apprécié par tous ceux et celles qui entretiennent des mangeoires l'hiver pour nourrir les mésanges et qui souhaitent leur simplifier la vie. Ces dortoirs s'installent sur un arbre non loin de la maison et des mangeoires. Ils seront disponibles auprès de la CHEC cet automne. L'objectif de la Société d'horticulture, d'ornithologie et d'écologie de Charlevoix et du Centre de Saint-Placide est de pouvoir leur permettre de produire à leur rythme pendant tous les mois de l'année. Merci de votre encouragement et bonnes observations. C'est signé Michel-Paul Côté. Une exposition à venir intitulée, qui a commencé au mois de juillet et ça se poursuit jusqu'au 14 septembre. L'entrée est libre. Éloge d'un fauteuil roulant du collectif Cummings et PIFCO, une exposition engagée qui incarne la pratique du Crip Art ou du Crip Art. Est-ce que vous connaissez, Mathieu?
Non.
Alors, le Crip Art, c'est un art pour penser et vivre autrement. Une pratique artistique ancrée dans l'expérience vécue des personnes en situation de handicap. Il reflète un besoin de créer, penser, vivre et présenter l'art différemment, tout en contestant les normes sociales et les oppressions liées au capacitisme. Dans Éloge d'un fauteuil maudit, le fauteuil roulant, souvent stigmatisé, devient un objet d'art porteur de récits intimes et collectifs. Chaque œuvre revisite cet objet sous des angles inattendus, interrogeant notre rapport au handicap et à la diversité capacitaire. Toutes les œuvres sont conçues pour être accessibles à des publics ayant des capacités diversifiées, incarnant les valeurs d'inclusion chères au collectif. L'exposition propose un voyage à travers la grande et la petite histoire du fauteuil roulant, tout en rendant hommage à celles et ceux qui en font usage. Chaque œuvre comporte une zone d'outils technologiques inclusifs de communication. Alors, l'exposition vous intéresse? C'est à la Maison de la culture de Verdun, quai 5160, l'adresse 5160 Boulevard Lassalle. Et je vous le rappelle, ça se passe actuellement et ce jusqu'au 14 septembre. Et c'est gratuit.
Son cousin, il est jamais personne qui y répond. Marie-Louise est exquise, Marie-Thérèse, elle est obèse. Marie-Berthe, elle est experte par l'entremise de sa tante Artémise.
Nino Ferrer, bien sûr, le téléphone.
Oui, l'amusante chanson, le téléphone. Et on a téléphoné Michel Potvin pour sa chronique économie. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de la filière batterie qui fait encore parler d'elle. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi une filière batterie?
Bien, la filière batterie, ce qu'on a appelé, peut-être un peu familièrement, là, la filière batterie, ça date de quelques années, le gouvernement québécois, là, avec M. Legault et M. Fitzgibbons, alors, ont décidé que produire des batteries ou des composantes de batteries avec l'énergie verte du Québec, ce serait une bonne idée pour amorcer ou continuer le virage vert via des véhicules électriques et puis peut-être d'autres usages qu'on pouvait trouver pour les batteries, mais surtout reliés au transport. Alors, le gouvernement dit, bon, ça semble être un bon endroit où investir. Puis là, ben, ils ont comme alloué des fonds à différentes entreprises pour développer soit, comme on va parler ce matin, des mines de lithium, des entreprises de transport ou bien la production de composantes de batteries.
D'accord. Alors, mais pourquoi justement vous nous en parlez ce matin?
Pourquoi aujourd'hui? Bon, c'est pas, je pense que c'est pas encore annoncé, mais il y a eu une décision là, au Conseil des ministres à la fin août. On va annoncer, si c'est pas fait, un investissement de 150 millions dans la firme Nemaska Lithium. Alors, Nemaska Lithium, c'est qui? Elle est située à Bécancour, puis elle veut produire de l'hydroxyde de lithium qui serait utilisé dans les batteries. La production doit débuter en 2026. Puis le lithium proviendrait de la mine Wabushi. C'est sur le territoire Cree, proche de la baie James. Juste un petit peu, je regardais sur la carte, un petit peu au sud-est de la baie James, dans le nord du Québec. Puis un village, c'est le nom Nemaska, c'est le nom du village qui est là. Alors, Nemaska Lithium, 50 % appartient au gouvernement, puis 50 % à Rio Tinto. C'est un projet de 3,6 milliards de dollars. Puis ce qui a attiré mon attention, c'est que cet investissement-là de 150 millions porte à près de 1 milliard l'apport financier du gouvernement dans l'entreprise, ce qui est énorme. Ces fonds-là viennent d'où? Ils viennent du Fonds de capital ressources naturelles et énergie, le FCRNE, ceux qui aiment les acronymes du gouvernement québécois. C'est un fonds qui est doté de 1 milliard. Jusqu'à présent, on a dépensé 700 millions, puis il y en a 650 qui est allé à Nemaska, 93%. Donc, c'est pas très, très diversifié, si vous voulez, comme investissement. Alors, c'est ça, Nemaska Lithium, puis cette annonce-là qu'on va faire.
On en a parlé quand même. J'ai entendu ça sur une tribune. Je sais pas si c'était sur les ondes de Radio-Canada, là. Vous, votre source à vous?
Moi, j'ai vu sur l'article sur le site web de Radio-Canada. On disait qu'on était pour faire l'annonce. Malheureusement, Elle n'était pas faite encore ce matin.
Mais pour l'instant, M. Legault est occupé ailleurs.
Ah, ça se peut.
Il est en train de témoigner à la commission Galant.
Ah bon, ouais, oui, ça occupe.
Alors, Michel, donc ce projet-là va sans doute créer des emplois.
Mais c'est ça, au-delà de vouloir être un joueur majeur dans la filière batterie mondiale, si vous voulez, on dit que ça va créer 500
emplois, oui.
La contribution gouvernementale, c'est à peu près 2 millions par emploi. C'est énorme, ouais. Si vous voulez. Là, une chance que ce n'est pas le gouvernement qui est responsable de tous les emplois de la province. On serait dans le trou, c'est pas à peu près. Mm-hmm. Mais le gouvernement, maintenant, est actionnaire. Donc, il y a peut-être une contribution. Là, on crée des emplois, mais en même temps, il devrait avoir des dividendes. Je n'ai pas la nature de sa participation. Ben, il est propriétaire à 50% de l'entreprise ou du projet. Donc, normalement, il devrait avoir 50% des revenus, si revenus il y a, évidemment. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le gouvernement, il veut développer la filière batterie, là, batterie / énergie verte. Donc, il y a presque 1 milliard dans Nemaska Lithium. On se souviendra, on n'a pas parlé beaucoup, mais certainement peut-être une fois ou deux à l'émission, là, il a mis 1,5 milliard dans Nordvolt. Puis ça, ben Nordvolt, malheureusement, depuis, ils ont fait faillite, là, puis c'est pas sûr qu'est-ce qui va arriver avec cet investissement-là. Il a mis 322 millions dans EcoProCam Canada. Donc, ça, c'est une compagnie qui produit des cathodes, donc des composantes pour les batteries, pour les véhicules Ford. Puis ça aussi, ça avait fait la manchette, compagnie-là que Ford installait pour alimenter ses batteries. Mm-hmm. Le projet est plus ou moins en pause. Ça aussi, il y a un peu des béquilles.
Ça lève pas trop.
Ensuite, c'est ça. 167 millions dans Lyon Électrique. Bon, Lyon Électrique, eux, ils ont fait faillite. Non, c'est pas. Ouais. Ça n'a pas été. Puis 500 millions dans Innergex, qui produit. C'est un producteur d'énergie basé sur l'éolien, le solaire, puis des petites centrales hydro. Là. Pas des grosses, mais des petites centrales. Donc là-dessus, ce qu'on se rend compte, c'est pas. Ça n'a pas été.
Un grand succès.
Glorieux, là, tous des grands succès, effectivement. Puis là, on pourrait se poser la question, c'est-tu la meilleure façon de développer l'énergie verte? Quel devrait être le rôle du gouvernement? Est-ce que c'est au gouvernement de choisir les gagnants là-dedans? Puis dire, ben c'est telle entreprise qu'on finance plutôt qu'une autre, là. C'est un peu le rôle des marchés financiers de faire ça. Puis parfois, les marchés financiers se trompent. Puis parfois, ils ne se trompent pas, puis ils réussissent des bons coups. Est-ce que c'est le rôle, le gouvernement devrait se substituer? Dans le cas des marchés financiers, bien, c'est des investisseurs au courant qui investissent, qui placent l'argent. C'est eux qui supportent le risque. Quand le gouvernement se substitue aux financiers, bien, il fait prendre le risque à beaucoup de payeurs de taxes. Puis, comme on le voit, ce sont des gros montants. Puis probablement qu'il y a d'autres secteurs, là, des activités gouvernementales, qui aimeraient bien avoir ces investissements. Mm-hmm.
Alors, donc, on va suivre tout ça de près.
Il y a une réflexion à faire là-dessus.
Oui. Et parlant de taxes, Michel, les tarifs, vous aviez quelque chose à dire là-dessus? Il y a toujours quelque chose à dire.
Peut-être le nouveau, là, je pense qu'on a parlé probablement les 2-3 dernières semaines, mais le nouveau, c'est qu'aux États-Unis, de la façon que les tarifs ont été décrétés, le président Trump a procédé par décret. Donc, il signe un décret. Canada, tarif sur l'aluminium, par exemple, l'acier est 50%. Tel mm-hmm. pays décret, clac. Et puis, sauf que, en temps normal, c'est pas la prérogative du président de faire ça, mais c'est plutôt le rôle du Congrès qui doit voter une loi pour augmenter les tarifs. Donc, ce rôle appartient au Congrès. Puis c'est pour ça, souvent que le président Trump dit sécurité nationale, pour sécurité nationale. Donc, il invoque une vieille loi sur la sécurité nationale qui,
pour ça pense,
danger national, attribue beaucoup plus de pouvoir au président.
Bon, c'est ça le but.
C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il parlait de la sécurité nationale avec la grande ennemie de fentanyl qui traverse la frontière du Canada aux États-Unis par année. Là. Mais là, s'il y en a, si on fait, ben là, les prétextes de sécurité nationale sont peut-être exagérés. Puis il y a des organismes, des compagnies américaines, des États qui poursuivent le gouvernement fédéral. Et puis là, on a eu une première décision d'une cour, je pense c'est une cour fédérale, qui a dit que le président avait agi illégalement. Donc, les tarifs sont pas abolis parce que à les abolir, ça créerait beaucoup de turbulences. parce qu'on s'attend évidemment à ce que le président Trump ou la Maison-Blanche saisissent la Cour suprême de cette poursuite-là.
Mm-hmm.
Donc, ça se pourrait, si la Cour suprême, et ça va peut-être prendre un peu de temps, que la Cour suprême décide que ces tarifs-là étaient illégaux. Puis là, ben, Trump n'aimerait pas ça. D'une part, ces tarifs disparaîtraient. Puis, présumément, la Maison-Blanche ou le gouvernement serait obligé de rembourser tout l'argent perçu illégalement par ces tarifs. Puis ça, ben, Trump, une des raisons qui apportait ces tarifs-là, c'était pour réduire la dette américaine. Oui. Ben, ça ne l'aiderait pas trop.
Non, Donald sera en colère.
Oui, Donald serait pas content.
Ben, non, je ris, mais c'est pas drôle. Michel Potvin, ouais, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Merci beaucoup pour cette chronique. On se retrouve mardi prochain, probablement à l'heure habituelle, c'est-à-dire 10 heures.
Parfait, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Ariane Moffat et sa chanson « Jouer ».
On reste dans le thème parlant économie et 40 milliards des produits américains d'une valeur de plus de 40 milliards de dollars qui étaient frappés par des droits de douane de 25 % depuis le mois de mars peuvent désormais être importés au Canada sans taxes supplémentaires. En effet, les droits de douane de rétorsion imposés depuis le mois de mars par le Canada sur de nombreux produits américains ne sont plus perçus depuis lundi. Il y a 10 jours, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le Canada abandonnait sa riposte contre les États-Unis pour les produits qui sont couverts par l'accord de libre-échange entre les deux pays et le Mexique. Cette mesure est entrée en vigueur lundi. Les droits de douane sur l'acier, l'aluminium et le secteur automobile restent en vigueur puisque les États-Unis maintiennent les leurs sur ces secteurs. Un bel hommage rendu à Victor Lévy-Beaulieu, Des funérailles régionales populaires ont eu lieu samedi à Trois-Pistoles en l'honneur de l'écrivain Victor Lévy-Beaulieu, qui est mort le 9 juin à 79 ans. On en parle dans les journaux, notamment dans le Journal de Montréal. La cérémonie mise en scène par Dominique Champagne s'est déroulée à l'église Notre-Dame-des-Neiges. Les organisateurs ont souhaité honorer l'apport important de l'auteur à la culture québécoise. Victor Lévy-Beaulieu a signé plusieurs livres, dépliants et essais, en plus d'avoir écrit près de 500 épisodes destinés à la télévision. En dépit du fait que certains ignorants ont décidé de ne pas prêter, disons, le titre de funérailles nationales à cette importante célébration, a reproché d'emblée Dominique Champagne. On s'est rameuté une belle bande de partout au Québec. L'émotion était grande pour le maître de cérémonie Yves Desgagnés. Cette date soulignait aussi les 40 ans de la fin du tournage de la télésérie L'Héritage. Un pays se définit par sa littérature. Quand on pense à la France, à qui on pense? À Victor Hugo. C'est lui qui a défini ce pays-là, a-t-il affirmé. Sans culture, sans littérature, il n'y a pas de pays et c'est pour ça que Victor Lévy-Beaulieu est si important. Fervent indépendantiste, Victor Lévy-Beaulieu aura réussi à rallier des élus de la région, dont le chef du Parti québécois et quelques députés du parti. Il a donné la voix à plein de gens, dont moi, avec mon livre « Rebâtir le camp du oui » qui a été publié aux éditions VLB. Donc, il a touché beaucoup de personnes et c'est un homme libre, très libre, a commenté Paul Saint-Pierre Plamondon. Des gens venus de partout dans les quatre coins du Québec, mais surtout du Bas-Saint-Laurent, sont venus honorer la mémoire de l'écrivain. Il mérite qu'on vienne le remercier aujourd'hui, a déclaré un citoyen. Que ce soit par sa parole ou par ses écrits, c'est quelqu'un qui mérite notre reconnaissance, notre admiration, a ajouté un autre citoyen. Je regrette énormément qu'on n'ait pas pu lui faire des funérailles nationales, a souligné une femme présente à ces funérailles régionales populaires. Complète l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. 2 septembre 2025. L'été n'est pas fini et ça paraît, ça se voit, ça se ressent. Il fait 20 degrés en ce moment, en tout cas dans la grande région métropolitaine. On prévoit un maximum de 28 avec un humidex. On parle encore humidex. Pas de 40 quand même. 30 degrés. On est capable de le prendre. On est fait fort. Passez une très belle journée. On se retrouve demain, déjà mercredi. Merci Mathieu Tessier. Ici Hélène Denis. À demain.